Bonsoir. Les populations en Syrie, victimes d'un nouvel enlèvement de masse. 2000 civils pris en otage aujourd'hui par le groupe État islamique dans le nord du pays, près de la frontière avec la Turquie. Explication à suivre d'Éric Biegala. L'escalade dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Moscou annonce le déploiement en Crimée d'un système de défense antimissile. Inquiétude des autorités ukrainiennes. Nous serons à Kiev avec Sébastien Gobert. Et puis Jacqueline Sauvage reste en prison malgré la grâce partielle accordée par le chef de l'État en janvier. La justice a refusé aujourd'hui la demande de libération conditionnelle. C'est une méthode que le groupe État islamique a déjà utilisée à plusieurs reprises par le passé, des enlèvements de masse. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui dans le nord de la Syrie, dans la ville de Manbij, située près de la frontière avec la Turquie. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir Sébastien.
Après avoir perdu le contrôle de cette ville, les combattants djihadistes ont emmené avec eux dans leur fuite 2000 civils, dont des femmes et des enfants, qui sont ce soir donc des otages.
Oui Sébastien, plus que des otages, en fait les civils de Manbij ont été surtout un bouclier humain pour les 100 à 200 djihadistes qui tenaient encore les quartiers nord de la ville de Manbij, attaqués depuis mai par les forces syriennes démocratiques, un regroupement de brigades arabes et kurdes dans le nord de la Syrie. Manbij, l'une des trois grosses agglomérations tenues par l'État islamique dans le nord de la Syrie, est finalement tombée ce vendredi. Mais les djihadistes se sont protégés dans leur fuite en emmenant avec eux les près de 2000 civils, femmes, enfants, personnes âgées, qui se trouvaient avec eux dans ces quartiers nord, en un convoi de plusieurs centaines de véhicules, et ce vers le nord, vers la ville de Jarablus, frontalière de la Turquie, empêchant ainsi les forces démocratiques syriennes ou les avions de la coalition qui les appuient de faire feu sur eux. La chute de Manbij, une bataille qui a duré près de 3 mois, est un revers militaire important pour l'État islamique qui, dans ce territoire, le nord de la Syrie, se trouve dorénavant réduite à 2 enclaves, celle de Raqqa et celle de le califat, la capitale du califat autoproclamé, et celle d'Al-Bab, un peu plus à l'ouest, territorialement. Le califat d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, est en net recul ce soir. Mais 2000 personnes supplémentaires se trouvent toujours entre ses mains dans une nouvelle enclave à Jarablus.
Merci Éric Biegala. Et un petit peu plus au sud, à Alep, la journée a été marquée par de nouveaux raids. Les avions du régime Assad et de la Russie ont bombardé les quartiers est de la ville, quartier rebelle, faisant, selon une ONG, au moins 20 morts. Et puis les États-Unis annoncent ce soir la mort du chef du groupe État islamique en Afghanistan et au Pakistan. Hafez Saïd, indique un responsable de la défense américaine, a été tué en juillet lors d'une frappe américaine menée à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et la tension qui continue de monter aussi entre l'Ukraine et la Russie à propos de la Crimée. Moscou accuse Kiev de vouloir préparer des attentats en Crimée. Hier soir, on vous disait qu'après ces accusations, l'Ukraine avait placé ses troupes militaires en état d'alerte dans le secteur. Ce soir, un pas supplémentaire est franchi par la Russie. Moscou annonce le déploiement en Crimée d'un nouveau système de défense antimissile. Une escalade qui inquiète le pouvoir ukrainien. Kiev, la correspondance de Sébastien Gobert.
La Russie serait-elle en train d'établir son propre bouclier antimissile ? Le déploiement des S-400 pourrait être compris comme une réaction à l'activation du bouclier antimissile américain en Roumanie et en Pologne, surtout qu'il s'inscrit dans le cadre d'exercices militaires russes prévus de longue date. Mais l'annonce intervient alors que les forces armées ukrainiennes sont dans un état d'alerte maximale, dans la peur d'une intervention russe. Moscou accuse Kiev d'avoir tenté de mener une attaque terroriste en Crimée. Le Kremlin n'a pas encore fourni de preuves solides qui pourraient attester d'une quelconque incursion ukrainienne, mais le ministère des Affaires étrangères russe a d'ores et déjà annoncé que l'incident ne restera pas sans conséquences. De quoi faire craindre une nouvelle opération russe en Ukraine, d'autant que, dans l'Est en guerre, les combats se font de plus en plus violents et de plus en plus meurtriers. La communauté internationale, l'OTAN y compris, appelle à la retenue et à une reprise des négociations, mais tous les éléments sont bien réunis pour une nouvelle explosion de violence. La Russie a refusé la présence d'observateurs de l'OSCE en Crimée et menace de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine si le gouvernement de Kiev n'entend pas raison. Chaque camp se rejette évidemment la responsabilité de l'escalade, mais à entendre les dirigeants du Kremlin, on en oublierait presque que la Crimée a été annexée en violation du droit international en 2014 et que le déploiement de troupes et de systèmes antimissiles sur la péninsule n'aurait, en principe, pas lieu d'être.
Sébastien Gobert à Kiev. 4000 casques bleus supplémentaires pour la mission de maintien de la paix au Sud-Soudan. Malgré l'opposition des autorités de Juba, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'autoriser ce soir ce déploiement supplémentaire. Le Conseil de sécurité qui a par ailleurs menacé Juba d'un embargo sur les armes en cas de non-coopération du régime avec cette force de maintien de la paix. François Hollande lui avait accordé une grâce partielle au mois de janvier, mais Jacqueline Sauvage reste finalement en prison. La demande de libération conditionnelle a été rejetée aujourd'hui par le tribunal d'application des peines de Melun. Cette femme de 68 ans avait été condamnée en décembre à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent qui violait également ses filles. La condamnation avait suscité une forte vague de mobilisation. Et après la grâce partielle du chef de l'État, on s'attendait à une décision favorable à la détenue, mais le juge d'application des peines n'est pas allé donc dans ce sens. Sophie Parmentier.
Jusqu'où va-t-on martyriser cette femme ? S'emportent les deux avocates de Jacqueline Sauvage qui dénoncent une décision incompréhensible et choquante, une décision totalement politique. Les institutions judiciaires font un bras de fer avec la grâce qui a été rendue par François Hollande, estiment ses avocates. Cette grâce, il faut le rappeler, n'était que partielle. Elle n'effaçait pas la condamnation à 10 ans de réclusion criminelle, mais elle ouvrait la porte à une libération conditionnelle avec les remises de peine, à condition que le tribunal d'application des peines de Melun donne son feu vert. Les juges de Melun refusent donc de le donner parce qu'ils estiment que Jacqueline Sauvage ne se sent pas assez responsable de la mort de son mari violent. Ils disent qu'elle se place dans une position de victime, position dont elle ne pourrait pas sortir selon eux, entourée de son comité de soutien. Les juges de Melun lui reprochent aussi d'avoir prévu de vivre chez l'une de ses filles qui habite trop près des lieux du crime. Ses trois filles sont aujourd'hui dévastées, sont portent les avocates. Elles ne savent pas comment l'annoncer à leurs enfants qui attendaient leur grand-mère cet été.
Et l'affaire va se poursuivre puisque le parquet, qui s'était dit favorable à la remise en liberté de Jacqueline Sauvage, le parquet va faire appel. Le sous-préfet de Calais annonce que l'État va se pourvoir en cassation après le refus du tribunal administratif de Lille de faire fermer les 70 commerces et restaurants installés au sein de la jungle de Calais. C'est un revers pour l'État qui avait saisi la justice en référé, considérant ses commerce comme illégaux et insalubres. Un directeur de cabinet qui n'aura pas son mot à dire sur tous les dossiers, c'est assez inhabituel, ça se passe au ministère des Finances. Le ministre Michel Sapin vient de recruter l'un de ses anciens proches, Thierry Aulagnon, un énarque qui a déjà dirigé son cabinet au début des années 90, mais un homme qui est aussi passé par un certain nombre d'entreprises, l'assureur GAN notamment, et surtout la Société Générale. Alors que l'affaire Kerviel n'est toujours pas terminée, évidemment c'est gênant. Michel Sapin sait qu'il s'expose à des critiques. Alors le ministre a trouvé la parade. Il a demandé à ses collaborateurs de court-circuiter le nouveau directeur de cabinet sur un certain nombre de dossiers. Laurent Vatrin.
Oui, en fait, ce n'est pas très nouveau dans la pratique des cabinets ministériels. Mais ce qui est nouveau, c'est que collaborateur trop proche d'un dossier trop sensible, aujourd'hui, Michel Sapin a décidé de consulter la haute autorité sur la transparence de la vie publique. Et cet organisme indépendant créé après l'affaire Cahuzac contrôle d'habitude le passage d'un responsable public vers le secteur privé, c'est-à-dire le pantouflage. C'est même écrit sur le site internet de la haute autorité. En l'occurrence, la situation est inverse. Michel Sapin n'était pas forcé de saisir la haute autorité, mais le ministre explique aujourd'hui à France Culture « J'ai souhaité, pour mon principal collaborateur issu du privé, prendre toutes les mesures pour que sa seule compétence soit reconnue et le mettre à l'abri de tout soupçon. » Donc la haute autorité a conseillé à Michel Sapin de donner des instructions claires et nettes à l'administration et à son cabinet. Je l'ai donc fait avec diligence, c'était la bonne manière de le faire, et expliquer le ministre des Finances. Et tous les collaborateurs de Michel Sapin ont donc reçu une note qui précise que Thierry Aulagnon n'a pas le droit de travailler sur le dossier Société Générale, ni sur les dossiers qui concernent, oui Sébastien, le groupe Banque Populaire, le groupe Air France KLM et la Société Thalès.
Merci Laurent Vatrin. Prévision de Météo France pour demain, soleil et chaleur un petit peu partout, à l'exception, effectivement, à l'exception des côtes du nord de la France jusqu'à la Bretagne où il y aura quelques nuages. Température l'après-midi comprise entre 19 degrés à Cherbourg et 30 degrés du côté de Perpignan. 22h10 tout juste sur France Culture. Merci d'avoir suivi cette édition préparée avec Nathalie Lopez. Excellente soirée et excellente nuit à tous.